Un tema direttamente collegato a quello di cui abbiamo discusso fino adesso, anche questo molto molto caro a Renzo Imbeni, che devo dire nella sua azione anche al Parlamento europeo cercava di rappresentarlo nel migliore dei modi, cioè essere un esponente della cultura europea. E questa parte sarà presentata da Catherine Lalumière. Io ho visto per la prima volta Catherine Lalumière qualche anno fa ormai, quando era segretaria generale del Consiglio d'Europa. Si dice spesso, perlomeno noi donne lo diciamo spesso, anzi no, molti uomini dicono, bah, non ci sono tante grandi donne europee. Penso che Catherine Lalumière sia un esponente femminile di europea assolutamente prestigiosa, che ha avuto un impatto molto forte, lo voglio veramente dire, sulla creazione della nuova Europa, cioè dell'Unione Europea allargata e dell'Europa senza Unione Europea. Perché io ricordo che il suo contributo quando era segretaria generale del Consiglio d'Europa è stato molto importante, perché era segretaria generale nel momento in cui il muro di Berlino cadde. E quindi i primi atti della nuova Europa, quella che doveva includere anche i paesi europei al di là della cortina di ferro, vennero fatti da Catherine Lalumière quando appunto era a capo di questa istituzione che era un po' sonnacchiosa e che grazie a lei non soltanto ritrovò senso e energia, ma anche rimase nel cuore, anche nella mente di molti europei. E oggi è un'organizzazione che forse si è di nuovo addormentata un pochino, ma che sicuramente quando lei era alla sua testa era sicuramente molto utile anche nella creazione di questa nuova Europa. Poi è diventata parlamentare europea, è stata candidata, mi ricordo, con una bellissima campagna elettorale alla presidenza del Parlamento, e la ricordo perché ho fatto anch'io questa stessa operazione all'inizio del 2007, ricordando appunto, ovviamente senza mai cercarla di imitare, per carità, ma questa grandissima operazione anche politica, no? Di volere un po' animare ancora una volta un Parlamento che a volte appunto è troppo consensuale o si basa su un potere comunque ancora abbastanza maschile, diciamocelo francamente. Detto questo, Catherine Lalumière, la culture européenne, est-ce qu'elle existe?
La culture européenne, on va en parler, mais je voudrais d'abord m'excuser devant vous. Je ne m'exprimerai pas en italien. Monica Frassoni a eu la gentillesse de dire que j'étais une femme très européenne, très engagée. C'est vrai, je suis très engagée, mais je ne suis pas du tout polyglotte. C'est une catastrophe, je m'en excuse. Et je remercie évidemment les interprètes qui me permettront de me faire comprendre, je l'espère. Tout d'abord, je voudrais féliciter les organisateurs de cette Summer School qui ont uni leurs efforts avec beaucoup d'efficacité. Je trouve ça très très bien, la ville de Modène, l'université, la région d'Émilie, etc. Mais évidemment, je voudrais me tourner principalement vers Madame Renzo Imbeni qui est ici, qui a joué un rôle décisif dans l'organisation de cette université d'été. Et je voudrais lui dire, comme précédemment M. Vidal Quadras, à quel point nous avons été marqués par la personnalité de Renzo Imbeni. Je considère comme une chance d'avoir été à ses côtés membre du bureau du Parlement, vice-président. Il y avait Vidal Quadras, Guido Podesta, on se retrouvait là comme vice-président, et j'étais assise à côté de Renzo Imbeni. Et nous avons souvent parlé de beaucoup de choses. Il avait une grande expérience du Parlement et il avait une approche des affaires européennes que j'aime par-dessus tout. C'était un humaniste, il avait des préoccupations sociales. Pour lui, les droits de l'homme, c'était essentiel. Et tout cela nous avait beaucoup rapprochés. Évidemment, sa disparition a été un choc très fort. Et aujourd'hui, madame, je voulais vous dire très profondément à quel point j'ai été impressionnée par votre mari. Alors, le thème de cette journée qui va clôturer cette Summer School, les nouvelles frontières des compétences de l'Union européenne. En fait, depuis ce matin, vous réfléchissez à l'avenir de l'Union européenne. Et il faut bien dire qu'on a bien besoin de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne parce que cette Union européenne, en ce moment, ne va pas très bien. Donc il faut sans doute faire preuve d'imagination et de volonté politique. Donc, belle journée de réflexion pour l'avenir. Et cet après-midi, vous m'avez demandé de parler de la politique culturelle, l'Union européenne et la politique culturelle. Je suis obligée de commencer par un état des lieux. Il faut bien dire que choisir ce thème, ça peut surprendre. Car en général, on ne parle pas beaucoup de culture dans l'Union européenne. On en parle dans l'autre organisation, qui est le Conseil de l'Europe. Mais dans l'Union européenne, à Bruxelles, à la Commission, on en parle très peu. C'est mieux au Parlement, peut-être, mais bon, dans l'ensemble. Par contre, on parle beaucoup d'économie. Très important. Le marché, la fiscalité, etc. Très important. On parle des questions sociales, mais un peu comme un contrepoids à l'économie. Un correctif aux abus du marché. Bon, ce n'est pas forcément la préoccupation dominante. On parle aussi beaucoup des institutions. Ah, les querelles institutionnelles, on en parle beaucoup. On parle à Bruxelles beaucoup de droit. Le droit communautaire, le droit européen, c'est devenu des monuments, ce sont devenus des monuments tout à fait importants et l'œuvre de la Cour de Luxembourg est une œuvre considérable. Très bien. Mais la culture, c'est vraiment tout petit, petit, petit. C'est une activité très marginale et il faut bien dire, on ne la prend pas très au sérieux. Et il y a plusieurs exemples de ce mépris. Le budget dédié à la culture, environ 0,03%. C'est pas beaucoup. Pas beaucoup. L'agriculture, c'est différent. Mais la culture, c'est vraiment minuscule. Au Parlement européen, il y a des commissions de travail. La commission culture, elle existe. Mais franchement, dans la hiérarchie des commissions, ce n'est pas la plus prestigieuse. Dans le traité de Rome, 1957, pas un mot sur la culture. Quelques années après, quand on négocie l'acte unique, en 1985, je suis au gouvernement français et le président Mitterrand voudrait que dans la réforme du traité de Rome, on inclut une base juridique pour la culture. Il s'intéressait beaucoup à la culture et il le voulait. On n'a pas réussi, on ne l'a pas obtenu. Ça a été un veto. Bon, donc, il n'y avait pas de base juridique. Et il faut attendre 1992 et l'entrée en vigueur du traité de Maastricht pour avoir, c'était l'article 280, je crois, la première base juridique en matière de culture. Il a fallu du temps pour y arriver. Et les résistances étaient extrêmement fortes. Alors, pourquoi d'ailleurs ces résistances? En fait, on l'a dit dans les précédents exposés, les États ne veulent pas se dessaisir de ce qui concerne l'éducation, la culture, parce que ça, c'est l'identité d'un peuple. Et on ne plaisante pas avec ces questions. Ça fait partie de la souveraineté, mais dans ses fondements les plus affectifs, c'est-à-dire les plus forts. Donc, il faut attendre le traité de Maastricht pour avoir une base juridique. Et depuis lors, on a commencé, après le traité de Maastricht, la politique culturelle, ce n'était pas une politique culturelle. On saupoudrait en distribuant un petit peu d'argent pour des activités du théâtre, de la musique, la protection du patrimoine. Mais ce n'est pas une politique, c'était le saupoudrage. Petit à petit, notamment sous l'impulsion du commissaire chargé de la culture, Marcelino Herrera, que M. Vidal-Quadras connaît bien, on a cherché à dégager des grandes lignes pour que le saupoudrage soit un peu mieux organisé. Par exemple, des actions en faveur de l'enseignement des langues, les actions en faveur de la mobilité des artistes, de la mobilité des œuvres. Bon. Tout ça, c'est très bien. Ce n'était pas vraiment une politique culturelle au sens plein du mot politique. En réalité, dans toute cette période, à partir du traité de Maastricht, la communauté européenne reste une communauté à dominante et économique, et elle est gênée lorsqu'il s'agit de passer à la dimension politique, et ça explique les résistances nationales des différents États. Malgré tout, les choses évoluent un petit peu et on trouve de plus en plus d'argent pour financer des actions culturelles. Alors, il y a ce petit budget qui reste minuscule, mais, on s'aperçoit que les fonds structurels, très importants, peuvent être utilisés pour des actions culturelles. Pourquoi ? Parce que la culture peut avoir des retombées très appréciables dans le domaine économique, dans le domaine social. Bon, par exemple, l'entretien du patrimoine historique, c'est du travail pour les entrepreneurs du bâtiment, ça crée des emplois, ça a des retombées économiques, ça a des retombées sur le tourisme, etc. etc. Donc, il ne faut pas considérer que la culture a simplement ses 0,03% du budget. En réalité, au travers des fonds structurels, on peut mobiliser davantage d'argent, mais le but reste quand même l'intérêt de l'État, ou l'intérêt de la région, ou l'intérêt de la ville qui va utiliser cet argent pour des opérations culturelles, mais avec des retombées locales. Ce n'est pas l'Europe, à proprement parler, qui en bénéficie. C'est localement toujours l'intérêt du territoire, de l'État, de la région ou de la commune. Alors, évidemment, en finançant ces opérations utiles sur les différents territoires, on sert quand même l'Europe, mais on la sert indirectement. La mobilité, par exemple, développe le tourisme. C'est très bon localement, mais ça sert l'Europe aussi parce que ça permet aux gens qui voyagent de mieux connaître les autres et de se sentir petit à petit, progressivement, européen. Donc, indirectement, progresse la citoyenneté européenne. Mais évidemment, c'est indirect et c'est extrêmement lent. Quant au contenu de la culture européenne, il reste extrêmement flou. On dit aux gens, on finance la mobilité. Voyager, voyager, voyager. Très bien, très bien. On voit bien que petit à petit, ça favorise l'esprit européen, mais malgré tout, vous pouvez voyager et ne jamais parler d'Europe. Donc, le contenu est sacrifié. A été et reste encore très souvent sacrifié. On peut dire que depuis le traité de Rome, depuis la création de la communauté économique européenne, la communauté et l'Union européenne n'ont pas pris conscience des vrais enjeux culturels. Ça reste la culture, une activité marginale qui n'est pas vraiment prise au sérieux. En fait, c'est le Conseil de l'Europe qui a été créé en 1949, qui ne s'intéresse pas, qui n'a pas de compétences dans le domaine de l'économie, et il a développé par contre des activités dans le domaine des droits de l'homme, de la culture, de tout ce qui fait l'humanisme européen. Mais le Conseil de l'Europe n'a pas beaucoup d'argent. Il reste une organisation intergouvernementale et il lui est quand même difficile de véhiculer l'esprit européen fondé sur une intégration et la supranationalité. Par nature, le Conseil de l'Europe reste dans la main des États. C'est une organisation intergouvernementale et l'image culturelle européenne qu'il va projeter est quand même marquée par ce caractère intergouvernemental. On a vécu ces dernières années des transformations et des évolutions assez profondes, et c'est là-dessus, bien sûr, que je voudrais insister. D'abord, cette évolution est loin d'être achevée, mais pour qu'elle puisse se poursuivre, on a besoin d'une prise de conscience des enjeux culturels à tous les niveaux. Au niveau de la société tout entière, du citoyen de base, mais aussi au niveau des responsables politiques, mais aussi au niveau des parlementaires européens, mais aussi à l'intérieur des administrations de la Commission, il y a un travail de prise de conscience qui en est simplement à ses débuts. D'abord, un mot sur l'évolution dans les textes. En fait, on a quand même progressé depuis le traité de Maastricht, et notamment le projet de traité constitutionnel et le traité de Lisbonne, dont on espère l'adoption prochainement, contiennent des éléments nouveaux qui vont dans le sens de cette prise de conscience. En effet, dans ces textes récents, il y a la reprise du chapitre classique sur la culture proprement dite. Et la conception de la culture européenne est résumée dans la formule qui est reprise de traité en traité. L'Union contribue à l'épanouissement des cultures des États membres. Alors, vous voyez, des États membres, les cultures des États membres, dans le respect de leur diversité nationale et régionale. Donc, on est toujours la culture locale, tout en mettant en évidence l'héritage culturel commun. Ah, voilà. Mais l'héritage culturel commun, on ne dit pas ce que c'est. On ne le définit pas. Et on n'insiste pas dessus. Or, développer les cultures des différents pays, c'est très bien. Ça enrichit la mosaïque. Mais ça ne développe pas l'esprit européen, le contenu même de cette culture européenne. Mais dans les nouveaux textes, dans les nouveaux traités, vous avez par exemple les préambules qui parlent des valeurs, de l'héritage patrimonial, matériel et immatériel des Européens. Vous avez des articles qui définissent de façon assez précise les objectifs de l'Union européenne et les valeurs fondamentales de l'Union européenne. Ça relève aussi de la culture. Vous avez la charte des droits fondamentaux. La charte, dans sa totalité, est l'expression de l'humanisme européen. Donc, vous avez dans ces textes une place beaucoup plus grande que dans le traité de Maastricht, ou a fortiori dans le traité de Rome, donnée à la culture, alors je précise, la culture, prise dans son sens large. Il ne s'agit pas simplement des beaux-arts. Il s'agit des beaux-arts, oui, la peinture, l'architecture, etc., etc. Mais il s'agit aussi des manières de penser, des manières de vivre, la gastronomie, pourquoi pas, les idées, les valeurs, ce qui fait l'âme de l'Europe, en réalité. C'est-à-dire ces valeurs spirituelles. Alors, je précise, quand je dis spirituelles, je ne dis pas religieuses. Spirituelles englobent peut-être les religions, Mais ça va au-delà. C'est toute une philosophie politique, une morale publique que l'on retrouve dans les différents pays d'Europe et qui fait partie probablement de nos caractéristiques et qui est en fait la culture européenne, voire peut-être la civilisation européenne. Et quand on en parle ainsi dans ces traités-là, on voit bien que la culture n'est plus du tout un gadget dont on s'occupe quand on a le temps, mais c'est le socle de la construction européenne. C'est la base fondamentale sur laquelle on a construit l'Europe. Et ça, évidemment, c'est une toute autre affaire. Aujourd'hui, la culture, petit à petit, est en train d'apparaître comme une composante de la citoyenneté européenne. C'est quelque chose qui est essentiel. Et si on n'a pas conscience de cette culture, on ne peut pas être un véritable citoyen européen. Les deux choses vont de pair. Et ça se manifeste dans la réforme qui est intervenue depuis 4 ans dans la commission présidée par M. Barroso, la direction dirigée aujourd'hui par Mme Quintin, Odile Quintin, s'appelait Direction Éducation Culture. Et elle s'appelle aujourd'hui Éducation Culture et Citoyenneté. Et ce changement de dénomination est révélateur de cette prise de conscience. Aujourd'hui, on se préoccupe tous de la citoyenneté européenne. On déplore tous que sur les 500 millions de citoyens de l'Union européenne, rares sont ceux qui se sentent vraiment citoyen européen, et ça passe par la culture, et la réforme de cette direction de la éducation, culture, citoyenneté montre que cela a été compris. La culture devient une matière horizontale qui doit se retrouver dans toutes les activités de l'Union. C'est la culture qui donne leur sens, leur signification aux différentes politiques qui sont conduites, même dans des domaines extrêmement techniques. Par exemple, Madame le professeur tout à l'heure parlait de la fiscalité. Il n'y a rien de plus technique que la fiscalité. Mais en même temps, la fiscalité est la traduction de choix politiques et d'une certaine conception de la société. La justice fiscale repose sur une conception de l'être humain et sur l'importance de l'égalité entre les êtres humains. Ou bien on a une autre conception et la fiscalité sera profondément inégale. Et on a le choix entre différents systèmes. Ce n'est jamais neutre. Quand on parle de politique économique dans l'Union européenne, ce n'est jamais neutre. Quand on parle de politique industrielle, ce n'est jamais neutre. De politique environnementale, ce n'est jamais neutre. Il y a toujours derrière des choix politiques et il y a, au-delà de ces choix politiques, toujours des fondamentaux, des fondements, un socle de principes qui sont la traduction de la culture d'un pays. Et c'est ça dont nous avons aujourd'hui besoin de prendre conscience. En fait, à l'origine, c'est-à-dire au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le projet européen était un projet culturel. Dès le départ, pour les pères fondateurs de l'Europe, ils avaient en tête une philosophie politique. Et ça se voit lors de ce fameux congrès de La Haye dont on a fêté l'anniversaire cette année, en 1948. En 1948, au congrès de La Haye, tous ceux qui sont là sont des hommes et des femmes, il y en a quelques-unes, qui sont imprégnés du désir de paix, et pas simplement la paix pour la paix. Ils ont été imprégnés par ce drame qu'a connu l'Europe qu'ils aimaient et qui a été capable, dans les années 20, les années 30, de mettre au monde des monstres. Le nazisme, le fascisme, le stalinisme, et d'une certaine manière le franquisme. En quelques années, ça fait beaucoup. Et comment cette Europe civilisée, cultivée, comment un pays comme l'Allemagne, qui était la quintessence de l'intelligentsia mondiale, comment est-ce qu'on a pu tomber dans la barbarie? Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pères fondateurs, c'est leur hantise. Comment ne pas retomber dans la barbarie? Alors, j'insiste, évidemment, parce que vous voyez qu'on peut faire le parallèle avec la période que nous vivons aujourd'hui. Bien sûr, les choses ont changé. On n'est plus en 1945. Mais il y a des traumatismes en ce moment qui peuvent avoir des conséquences, comme ce fut le cas avant la Seconde Guerre mondiale. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pourquoi la philosophie politique, qui a été au cœur des débats dans les années qui ont suivi la guerre, nous devons la connaître. Et en faisant les adaptations nécessaires, nous devons aussi nous en inspirer. Alors, au congrès de La Haye, vous aviez d'éminents italiens. Bon, il y avait Alcide de Gasperi, mais il y avait aussi Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, on en parle toujours parce qu'il est l'homme du fédéralisme. Bon. Mais moi, pour moi, Altiero Spinelli, bien sûr, c'est l'homme du fédéralisme, très bien, mais c'est surtout l'homme des libertés. En fait, Altiero Spinelli, toute sa vie, depuis l'âge de 17 ans, quand il va claquer la porte du Parti communiste, en réalité, c'est un homme qui s'est toujours battu pour la liberté. Et pour lui, la construction européenne, c'est un instrument pour protéger la liberté. Donc, ce n'est pas un fédéraliste fou d'institutions. Il devient un fédéraliste fou de fédéralisme parce que pour lui, c'est un moyen d'empêcher la barbarie et d'empêcher le retour des vieux démons. Et c'est le Conseil de l'Europe qui, en 1949, va hériter de toute cette pensée politique, de cette philosophie politique. Et il ne faut pas oublier que le premier grand texte européen, ce n'est pas le traité de Rome, qui date de 1957, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, qui date de 1950. Donc, chronologiquement, ils ont commencé par là. Parce que pour eux, c'était le garde-fou principal. Je rappelle ces choses qu'on a tendance à oublier. Parce que si on fait démarrer l'Europe avec le traité de Rome, tout naturellement, on met au premier rang l'économie. Le traité de Rome est un traité économique. Mais on oublie ce qui a été fait avant. Et pour les pères fondateurs, ce qui avait été fait avant était extrêmement important. Alors évidemment, dans le traité de Rome, ils ne l'ont pas redit, parce que pour eux, c'était déjà acquis. Mais il ne faut pas que les héritiers oublient ce qui s'est passé. En effet, à partir du traité de Rome, il y a eu une forme de déformation du projet européen. Ce projet qui était au départ très politique, mais reposant sur une philosophie politique, sur des idées, sur des valeurs, sur des conceptions très précises et très profondes. Le traité de Rome a mis au premier rang le marché commun, l'économie, l'argent. Et c'est finalement une vision très matérialiste du projet européen qui a petit à petit envahi les esprits. J'en ai fait l'expérience quand j'ai commencé à m'intéresser à l'Europe en étant au gouvernement français dans les années 84-85. À Bruxelles, on ne parlait que d'économie. Oh, j'étais devenue assez bonne, hein. Les règles du marché commun, sur les problèmes des quotas de pêche, etc. Ça, j'avais fini par connaître pas mal de choses. Jamais on ne m'a parlé de culture, de l'importance de la culture européenne, de ce que représentait cette culture européenne, ses valeurs humanistes, etc. Jamais. C'est en arrivant en 1989 au Conseil de l'Europe que pour la première fois, j'ai découvert les œuvres de Denis de Rougemont. On a parlé de Koudenov-Galerghi, d'un certain nombre d'intellectuels qui avaient réfléchi à la culture européenne. Et c'est en 1989, vous l'avez rappelé, Monica Frassoni, que, en prenant les premiers contacts avec les pays après la révolution de velours ou de moine de velours dans certains pays, ben, au moment du basculement des régimes, avec les hommes qui faisaient ces révolutions, les Bronislav Guéremec, dont nous déplorons la disparition récente, mais des Václav Havel, dans tous ces pays, ceux qui ont fait ces révolutions étaient imprégnés de cette culture européenne. Et ils l'ont fait au nom de la culture européenne. Alors bien sûr, maintenant, si vous interrogez un jeune Tchèque dans la rue ou un jeune Polonais, c'est la civilisation Coca-Cola. Hein. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, un job. Bon, très bien, je ne leur jette pas la pierre. Mais évidemment, il n'y a pas la profondeur qu'ont eu ceux qui ont fait le basculement de régime, car le basculement de régime, il a été fait par des hommes qui avaient pensé les fondamentaux. Et vraiment, vraiment, ils l'ont fait au nom de la culture européenne. Et évidemment, la vision purement matérialiste qui domine aujourd'hui dans les milieux européens, dans les dossiers européens, on ne parle que de questions matérielles. Alors, loin de moi l'idée que l'économie soit peu importante. Elle est très importante. Nous avons besoin de croissance, nous avons besoin d'emploi, mais ça ne suffit pas. Alors, nous avons besoin de réfléchir à l'économie. Si elle détruit la planète, évidemment, on n'est pas gagnant. Et ça, les écologistes ont quand même mis l'accent sur ces contradictions. Mais au-delà, il y a la signification de cette construction européenne. Pourquoi fait-on tout cela ? Quel est le but, quel est l'objectif de cette construction qui peut souvent apparaître aux citoyens de base comme une construction contraignante, tatillonne, technocratique, bureaucratique, insupportable et finalement condamnable. Nous ressentons aujourd'hui un malaise en Europe, c'est vrai. Et en France, l'échec du référendum en 2005, du 29 mai 2005, a traumatisé tous ceux qui aiment l'Europe. Mais aujourd'hui, en France, on referait le même référendum, on aurait le même résultat. Je suis désolé, mais je ne crois pas du tout que la situation se soit améliorée. Pourquoi ? Et je rejoins là les observations qui ont été faites par Jairo Vidal-Quadras. On a besoin d'informations. Elle est insuffisante. Il y a des politiques de communication, mais il y a encore des progrès à faire. Mais surtout, on a besoin d'explications. Parce que l'information, c'est une chose, mais il faut expliquer. Et on a besoin de compréhension. Alors, compréhension de telle ou telle directive, mais aussi compréhension de l'ensemble, le projet européen. Et cette perte de sens a les conséquences que nous déplorons. Il y a un véritable désamour envers l'Europe. Il y a une incompréhension envers ce qu'est le projet européen. Et cette perte de sens, elle se retrouve à tous les niveaux, je vous le disais. Et heureusement, il y a des signes que ça pourrait aller mieux. Je prends quelques exemples. Le président Barroso, quand il a pris ses fonctions, j'attendais de lui qu'il soit un économiste tendance anglo-saxonne. Disons les choses. Bon, il était présenté comme ça. Et à ma grande surprise, je constate que dans tous ses discours, il y a un chapitre sur la culture européenne, sur l'importance des valeurs. Et je me dis, mais ça ne colle pas avec son personnage. Je trouve que c'est très bien, mais pourquoi ? Eh bien, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de miracle, on dira. C'est que le président Barroso, certes, est un économiste, certes, il a été aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc., mais il a été aussi dans sa jeunesse, à Genève, étudiant de Denis de Rougemont, lequel Denis Rougemont avait été le premier à créer le Centre européen de la culture. Et c'est d'ailleurs là, je l'ai appris récemment, que M. Barroso a rencontré Mme Barroso. Et donc, avec la bénédiction de Denis de Rougemont. Et c'est, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est en fait là qu'il a compris que l'Europe, ce n'était pas uniquement le marché commun, que c'était beaucoup plus que cela, que c'était un projet de société, que c'était un projet culturel où les questions matérielles sont importantes, mais ne sont qu'un morceau de l'ensemble. Alors, cette culture européenne, ce modèle européen de société, il est très critiquable. Il a fait beaucoup d'horreurs. L'Europe, je l'ai dit, a été aussi un champ de bataille abominable. Mais malgré tout, ce que nous essayons de faire depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un type de société qui repose, grosso modo, sur trois grands principes. Liberté, et ça inclut évidemment les droits de l'homme. Liberté, prospérité. L'économie, c'est important, prospérité. Et le troisième, solidarité. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de gagner de l'argent et puis d'avoir des très riches d'un côté et des très pauvres de l'autre. La solidarité, alors on peut discuter sur le degré de justice sociale, etc. Il y a des nuances. Mais grosso modo, le modèle européen, c'est ça. Et ce modèle européen, il est fragile. Il est terriblement fragile dans le monde tel qu'il est. Les phénomènes de la mondialisation, ils existent. On les voit tous les jours. L'émergence de très grands pays d'une puissance économique considérable, ben nous le voyons tous les jours. C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est le Brésil. Nous voyons des accumulations de capitaux impressionnantes. Les fonds souverains, ici ou là. Mais nous voyons aussi des régimes qui sont à la tête de ces puissances considérables qui ne partagent pas du tout nos principes, qui ne partagent pas du tout notre modèle. Et qu'est-ce qui risque de se passer si nous restons les bras ballants ? Eh bien, c'est que la force va se comporter comme un tsunami. Et nous allons être littéralement des fétus de paille. Avec nos 500 millions d'habitants, on n'est pas de taille à se défendre. Ou en tout cas, nous ne pouvons nous défendre que si nous nous donnons des outils économiques, institutionnels, politiques, en sachant justement ce que nous voulons défendre. Et ce que nous voulons défendre, eh bien, c'est la culture. C'est ça. La culture au sens large que j'ai donné au mot culture. Mais c'est pour ça que je suis européenne. Ce n'est pas par l'amour des institutions européennes, c'est parce que derrière tout cela, c'est une forme de société que je trouve moins mauvaise qu'ailleurs. Ou très bonne, non. Très bonne, ce serait trop optimiste. Et je crois que c'est ça qui peut permettre alors de travailler pour l'Europe, d'accepter des contraintes, parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne proteste pas contre telle ou telle directive qui nous semble vraiment nuisible à nos intérêts. Bon, chacun défend son point de vue, c'est tout à fait normal. Mais ce qui est évidemment essentiel aujourd'hui, c'est que la masse des citoyens ne soit pas une masse inerte, inconsciente des enjeux, ou voyant simplement dans l'Europe un guichet pour obtenir un peu d'argent. C'est ça, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et vous comprenez que ma conclusion, quand vous me demandez de parler de la politique culturelle de l'Union européenne, bon, si je vous parle de la politique culturelle européenne telle qu'elle a été conçue depuis le traité de Rome, c'est tout petit, petit, petit. C'est vraiment presque rien. Si on prend conscience des vrais problèmes, et des vrais enjeux, on s'aperçoit que le domaine de la culture, qui est très vaste, très horizontal, il a un rôle majeur à jouer, car c'est lui qui donne l'esprit européen et les raisons pour lesquelles on mobilise nos énergies pour essayer de construire quelque chose.
Molte grazie, Madame Lalumière. Penso che questa sua conclusione, la cultura come modo attraverso il quale riscoprire il senso del nostro essere europei e anche i valori che sottostanno a questo nostro essere europei, mi sembra una conclusione assolutamente stimolante e anche che fa uscire un po' anche il tema della cultura dai limiti anche in cui spesso questo dibattito si affronta al Parlamento europeo e ci fa uscire anche al Parlamento, insomma, nelle istituzioni europee, e ci fa uscire un pochino anche dalla trappola della definizione della cultura come una competenza esclusiva degli Stati membri. Bene, abbiamo 7-8 minuti per qualche domanda. Se qualcuno voglia di farla. Ah, ce n'è una, un attimo solo, dottoressa, professoressa.
Mi aveva chiesto di... Ma volevo sapere, in italiano, volevo solo sapere qual è il pensiero, qual è la sua opinione sul multiculturalismo, cioè sulla presenza in Europa, che sta diventando sempre più massiccia, di culture diverse, profondamente diverse dalle nostre. E se a livello di Parlamento europeo ci sono delle iniziative.
Forse prendiamo subito anche la seconda questione.
Ah, vabbè, io in primis mi assumevo tutta la responsabilità di avere voluto una relazione sulla politica culturale. Sono stata io a volerla e mi è stata data questa possibilità di inserire questo argomento perché lo trovavo di estremo interesse. In parte la mia domanda l'ha già fatta la professoressa Fregni, perché quest'anno è l'anno europeo del dialogo interculturale, ma quanto effettivamente in questo momento storico particolare ci può essere un dialogo tra le culture, siano esse interne all'Unione Europea, ma in particolar modo il dialogo tra le culture europee e le culture che provengono da altri paesi. Grazie.
Abbiamo un'ultima domanda.
È una domanda molto breve, però volevo sapere appunto il suo commento sul fatto che comunque la cultura è stata inserita come uno dei fattori strategici della strategia europea per l'occupazione e quindi per il raggiungimento anche degli obiettivi di Lisbona. E quindi diciamo questo rapporto tra cultura e occupazione anche, diciamo, nei confronti poi si riaggancia anche al tema comunque dell'economia mondiale, quindi eventualmente della ripresa dell'Europa.
Grazie.
Oui, sur le multiculturalisme et le dialogue interculturel, on pourrait en parler évidemment pendant des heures. Je crois que l'idée dominante aujourd'hui, c'est que le multiculturalisme est une bonne chose. Et on constate que l'Europe est une mosaïque de cultures. Bon. Et cette mosaïque est approuvée et encouragée. Et d'ailleurs, je vous lisais les articles des traités, ils commencent par là, les actions de l'Union européenne, c'est d'abord renforcer les cultures multiples qui existent à l'intérieur de l'Union européenne. Alors, c'est vrai, à l'intérieur de l'Union européenne, ce multiculturalisme est une bonne chose. Et ce dialogue entre des cultures qui se connaissent, qui se respectent, est une bonne chose. Mais, attention quand même, je suis à l'intérieur de l'Union européenne, je suis convaincu qu'il faut aller au-delà et que le multiculturalisme ne doit pas dégénérer en une résurgence du nationalisme, par exemple, ou d'un régionalisme qui deviendrait aussi insupportable que le nationalisme. À ce moment-là, on assisterait, ce que certains dénoncent d'ailleurs aujourd'hui, à une régression de l'intégration, ou l'intégration négative. Et si je le dis avec une certaine gravité, c'est que je vois aujourd'hui un certain nombre de menaces. il y a dans nos pays des bouffées de nationalisme de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses. Nous avons également des revendications régionales qui, à mon avis, vont trop loin. C'est-à-dire que si on y prend garde, on revient autour de son clocher avec tendance à mettre des barrières tout autour, à n'accepter personne. Les conséquences concrètes, c'est la politique de l'Union européenne en matière d'immigration. Je ne dis pas qu'on puisse, comme disait Michel Rocard, accueillir toute la misère du monde. C'est vrai, l'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais en ce moment, on voit se développer dans nos pays tout l'inverse, c'est-à-dire une fermeture qui n'est pas dans les traditions que j'aime de la culture européenne. En réalité, au fil des siècles, globalement, l'Union européenne, c'est toujours... Enfin, l'Union européenne, l'Europe, c'est toujours ouverte. Nous nous sommes construits, nous les Européens, parce que nous étions des pays maritimes, et nous avons glané des idées partout dans le monde. Tous les Vasco de Gama et autres, ils ont voyagé et ils revenaient avec des idées. Vous savez que l'un des mythes que l'on dit fondateur de l'Europe, de la culture européenne, c'est l'Odyssée, c'est Ulysse. Parce que cet homme, il est dans son île à Ithaque, et il ne veut pas rester, il veut aller voir ailleurs. Et il part avec ses compagnons. Il fait le tour de la Méditerranée, il apprend des choses, il voit des gens, il revient. Mais il revient transformé. Et ça, c'est l'Européen. Curieux, qui accepte de se remettre en cause, mais qui ne va pas s'évaporer dans la nature, il va revenir différent. Thèse, antithèse, synthèse. C'est le schéma de la pensée européenne. Et ça, c'est l'ouverture. L'ouverture et en même temps, la force intellectuelle de faire le tri et de refaire sa propre synthèse. Donc on s'inspire des autres, on est ouvert aux autres, mais attention. On fait le tri. Le rationalisme de la pensée de l'Européen. Mais face aux identités régionales et aux bouffées nationalistes et à ce qui se passe dans le monde, c'est la même chose. Nous devons être ouverts. J'ai très peur de ces retours à la fermeture. On doit être ouvert, mais ça ne veut pas dire qu'on va se faire influencer par tout le monde. Être ouvert, ça ne veut pas dire adopter l'intégrisme des mollas. Ça ne veut pas dire... oui, mais évidemment, je pousse le bouchon un peu loin en disant cela. Mais ça veut dire... on n'est pas fermé, mais on a quand même ses principes, on a ses valeurs. Et si on accepte des étrangers qui viennent chez nous, c'est pas pour qu'ils détruisent nos valeurs fondamentales. Alors, c'est un exercice difficile que nous devons faire. Multiculturalisme, oui, mais il y a quand même des lignes jaunes. On n'accepte pas n'importe quoi. Bon. Dialogue interculturel, oui, mais comme Ulysse qui allait dialoguer avec ses différents interlocuteurs, on dialogue, on fait le tri, on choisit, on garde son libre arbitre, son intelligence, sa raison. Alors c'est vrai à l'intérieur de l'Union européenne et c'est vrai aussi à l'extérieur. Alors, je ne remets pas en cause les bienfaits du multiculturalisme. Le dialogue interculturel, oui, mais il faut être costaud pour faire un vrai dialogue interculturel. Il faut être costaud parce que, d'abord, il faut vraiment comprendre l'autre, ce qui n'est pas facile. Et ce n'est pas simplement un problème de traduction de langue. Il n'y a rien de plus difficile que de se comprendre sans malentendu.
Et très souvent, on croit avoir compris l'autre, et en réalité, on n'a pas compris son idée. Donc le dialogue interculturel est très difficile à faire, très très difficile. Souvent, c'est un faux dialogue. Je vois tous ces congrès, ces colloques qui s'intitulent « Dialogue interculturel », c'est de la bouillie. C'est pas... C'est-à-dire qu'on parle, mais en réalité, les concepts, les idées, on ne les a pas compris. C'est donc extrêmement difficile, le véritable dialogue interculturel. Et par ailleurs, il faut être costaud, parce que l'interlocuteur qu'on a en face, il faut savoir prendre ce qu'il a de bien, mais aussi ne pas s'auto-détruire, involontairement, bêtement, stupidement. Donc, oui, il faut être solide, intellectuellement solide. Alors, vous voyez que multiculturalisme, oui, dialogue interculturel, bien sûr, mais c'est un exercice qui demande une force intellectuelle, évidemment, mais une force.
Mille grazie, anche perché penso che tutti abbiate apprezzato la bellezza della lingua che utilizza la signora La Lumière, e penso che anche questo fa parte della nostra cultura, sicuramente come europei.